11h, 12h30.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1. C'est une sportive qui manque de confiance en elle. C'est pour ça qu'elle a installé des petits trous à son vélo d'appartement. Christine Mérou.
Bonjour.
Il souhaite une bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans et surtout à ses voisins qui font des pâtisseries délicieuses à 3h du matin. Oui. Ben H.
Ça me réveille. Bonjour à tous. Bonjour Anne.
Comme nos invités du jour, elle est passionnée de théâtre. Elle prétend connaître par cœur tous les films de Molière, la cultivante Léa Landau.
Oui, malade imaginaire. Bonjour.
Cultivante, ça vous choque pas?
Pas du tout. J'aime les mots inventés.
À cause des chaînes d'infos, il parle plus de temps avec notre invité Christophe Barbier qu'avec sa propre femme, Jean-Philippe Vizini.
Elle s'en plaint en plus. Bonjour les amis, bonjour à tous.
Et celle qui aimerait demander à Alexandre Benalla de s'occuper de la sécurité de son propre frigo pour pas qu'elle le dévalise pendant la nuit. Elle veut mettre toutes les chances de son côté avant l'été. Anne Romanoff. Ouais.
Au sommaire de cette émission, Ben H vous expliquera pourquoi il est déprimé.
Ouais, ça va pas.
À 11h30, nous recevrons Antoinette Collin, directrice artistique du Point Virgule, et l'humoriste Tania Dutel pour la 12e édition du Point Virgule fait son Olympia, qui aura lieu le 20 juin prochain à Paris. Christine Bérou reviendra sur l'histoire du Point Virgule. Et à partir de 11h50, Christophe Barbier sera notre invité pour son spectacle Moi Sacha, d'après l'œuvre de Sacha Guitry au théâtre de Poche-Montparnasse, à Paris jusqu'au 10 juillet. Jean-Philippe Vizine nous parlera de ses ambitions politiques. Et la Lando lui a préparé une interview. C'est Guitry qui l'a dit.
11h, 12h30. Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Jusqu'au 10 juin, c'est la fête du vélo avec des événements organisés dans toute la France. Est-ce que vous faites du vélo? Vous aimez le vélo? Vous pédalez, Jean-Philippe?
Ah ben moi, j'adore le vélo. Et d'ailleurs, je viens d'acheter un vélo d'appartement. Et oui, l'autre jour, j'ai passé 3 heures dessus. Zéro fatigue, pas une seule courbature. Du coup, la prochaine fois, j'installerai les pédales.
Léa?
Bah moi aussi, comme Jean-Philippe, j'ai un vélo d'appartement.
Et ça donne quoi?
Bah ça donne comme pour les mecs, je pédale de toutes mes forces, je m'épuise et zéro résultat. Rien de plus sur mon corps.
Ça, c'est pas vrai, hein. C'est pas ce qu'on m'a raconté.
Mais
hein.
Je sais pas quelles sont vos sources d'informations, Anne Romanoff.
Bah, sur tous les sites porno.
Non, mais elle raconte qu'elle est seule, mais c'est pas vrai du tout.
Mais si, j'aimerais bien en savoir plus parce que tu.
Mais non, mais c'est vrai, je suis seule. J'étais sur un dossier qui a un peu démarré, mais qui s'est très vite refermé.
On se croirait à l'URSSAF quand elle parle.
On n'a même pas eu le temps de consommer. C'est pour ça que c'est comme si ça n'est rien n'avait eu lieu, en fait.
Ah.
Bah ouais.
Faut
bah
prendre
ouais.
un doggy bag dans ce cas.
Christine?
Oui, moi depuis que j'ai un enfant, je fais souvent du vélo à la marocaine.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que je pédale dans la semoule.
Oh, Christine, nous avons eu la chance de voir votre progéniture au barbecue de Jean-Philippe Vizini. Mais c'est
magnifique.
Un enfant, mais d'une beauté.
Ah, oui. Non, mais c'était frustrant parce que pendant toute la journée, vous étiez là. Ah, elle est si gentille, elle est si douce, elle est
oui,
si
on
belle,
t'a complètement oublié.
Oui, déjà, puis vous la connaissez pas la nuit. Elle se transforme en monstre diabolique.
Mais non, mais la journée, mais elle est tellement craquante. Elle est
mignonne.
Belle, elle est douce, elle est. Ouais. Elle est calme.
C'est vrai, elle pleure jamais.
C'est vrai, elle a pas pleuré une seule fois.
Mais c'est
mais
vrai.
Aussi, elle était en plein soleil. Peut-être qu'aussi, elle était un peu séchée. Peut-être c'est ça.
Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
Charles Consigny, arrête, on n'est pas couché après un an. Alors moi aussi avec ma fille, ça fait un an que je suis pas couchée. Je savais pas qu'on pouvait arrêter si on voulait. Je fais comment, j'appelle qui?
Pour remplacer Laurent Wauquiez, les Républicains ont un nouveau président par intérim, Jean Leonetti. Excellent choix, hein, puisque ce médecin est un spécialiste de la fin de vie.
La romancière britannique J.K. Rowling annonce la sortie de 4 ouvrages en format numérique consacrés aux matières enseignées à Poudlard, l'école du sorcier. Moi, je vais les acheter.
Tu veux apprendre la sorcellerie?
Oui, juste la formule pour faire disparaître les belles-mères.
La romancière britannique J.K. Rowling annonce la sortie de 4 ouvrages en format numérique consacrés aux matières enseignées à Poudlard. Alors moi, j'en ai pas besoin. Je sais déjà très bien me servir de ma baguette.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Léa Landau, Ben H, Jean-Philippe Vizini, Christine Bérou et 2 de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour Azur Eva d'une semaine pour 4 personnes en jouant à notre jeu Devinez qui je suis.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Ben H, Léa Landau, Christine Mérou, Jean-Philippe Vizini. Alors, tout va bien?
Bah ouais.
Christine ?
Oui, tout va très bien. Je voulais en profiter pour remercier JP pour son invitation avant-hier. On a passé un dimanche extraordinaire.
Mais arrêtez de dire que c'était bien chez moi. J'ai l'impression que tout le monde va débarquer. Donnez l'adresse, allez-y. Hein.
Et je vais ajouter que, après, on est rentré dans la voiture. Mon chéri m'a dit cette phrase : dis donc, elle est de plus en plus belle, Anne Rouanoff. Voilà, donc je voulais. Voilà, moi ça m'a fait plaisir. Moi, je commençais à.
Tu lui as filé son numéro ?
Voilà, je dis ça, on a passé une très très bonne journée, mais je transmets.
Ah bah à qui oui, mais ça me fait plaisir.
C'est vrai, vous aviez une robe rouge très élégante.
Bah, on l'a surtout vue en maillot de bain, et moi je trouve qu'elle est prête pour l'été. Hein.
Ah ouais,
c'est vrai.
Oui, il y a Victoria Secret qui veut vous recruter pour le prochain défilé.
Il y avait le voisin de Jean-Philippe avec les jumelles, je pense qu'il a pu se rincer l'œil. Ouais.
Ben Nash, aucune remarque sur mon physique en maillot de bain ?
Ben moi, vous le savez très bien, je vous trouve sublime, Anne. Et, et je me suis vraiment posé la question, parce que...
De si je pouvais un jour ?
Non, mais moi, je suis génération très love story. Et à un moment, on était tous les deux dans la piscine. Et... sur un petit malentendu, faut que je te parle chronique. Je sais pas, il y a eu un truc.
C'est vrai qu'entre Anne Roumanoff et Loana...
On va arrêter de dire n'importe quoi. C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Christine ?
Devinez qui je suis !
Ouais !
Europe 1, Anne Roumanoff.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités qui sont nées au mois de juin. Cette semaine, Azureva, spécialiste des séjours en village et résidences de vacances, vous offre votre séjour d'une semaine, 8 jours, 7 nuits pour 4 personnes. Au cœur des plus belles régions de France, venez découvrir nos sites labellisés famille, nature, gourmand, festif,
fais-nous rêver, fais-nous
sport,
rêver.
Famille, nature, gourmand, festif, sport,
ah ouais.
Bien-être. Il y aura toujours une activité faite pour
vous.
Ah oui,
laquelle ?
Que vous soyez adepte des destinations mer, océan, montagne ou campagne, vous trouverez des formules adaptées à vos envies.
Ah oui.
Dans le lot, il y a le jardin de Jean-Phi ou...
Plus d'infos sur azureva-vacances.com.
Ouais.
Et on joue d'abord avec Béatrice. Bonjour Béatrice.
Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Béatrice, vous avez un très bel âge puisque vous avez 50 ans.
Ah oui. Ouais, on peut dire ça.
Bah oui, vous habitez à Aubréchy, près de Maubeuge, dans le Nord.
Ah. Oui, tout à fait.
Et vous êtes divorcée.
Oui.
Et vous avez un nouveau compagnon que vous avez rencontré au travail, à la poste.
Voilà, tout à fait.
Il est postier ?
Oui.
Il est comment, surtout ?
Bah, il a une casquette jaune et puis un vélo.
Voilà, c'est ça. Non, mais il est en voiture, lui, non. C'est quelqu'un de très, très gentil, très calme par rapport à moi.
Oui.
Donc,
ça
c'est
équilibre.
Bien parce qu'il me... Il me voilà, c'est ça, tout à fait.
Ça fait combien de temps, là ?
5 ans.
Ah ouais ?
Ah, quand même !
Et en 2019, ça y est, vous installez avec lui ?
Non, c'est en projet, on aimerait bien.
Ah.
Après, c'est pas toujours évident, mais...
Pourquoi ?
Sinon, ouais.
Pourquoi c'est pas évident ?
Bah, parce que lui, il n'est pas encore divorcé officiellement.
Ah oui ! C'était une info que vous voulez !
Eh bien, nous allons appeler sa femme.
Ah ouais, non,
non, mais
alors...
Non, mais il y a 5 ans, il était marié.
Non, lui il est divorcé, il est séparé déjà depuis très longtemps.
Et pourquoi il est pas divorcé alors ?
Bah parce qu'ils vivent encore ensemble et que...
Non, mais bon, vous savez les femmes comment elles sont. Hein.
Elles sont chiantes, c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
Alors Béatrice, vous êtes une fan de Patrick Bruel, vous l'avez vu 10 fois en concert ?
Oui, voilà.
Vous connaissez toutes ses chansons alors ?
Bah quand même, ouais, pas mal.
Allez-y, on s'était dit rendez-vous, allez-y.
On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même port. On verra quand on aura 30 ans sur les marges de la place des grands hommes. Voilà.
Pas mal.
C'est même jour, même heure, même port.
Non, c'est
non,
même
c'est
pomme.
Même pomme.
C'est même pomme. Ouais. Faudra y retourner encore une fois, madame. Une deuxième fois. J'avais pas tout compris encore. Hein.
Vous écoutez l'émission tous les jours, Béatrice, pendant votre tournée de,
oui.
de facteurs ?
Voilà, c'est ça, oui.
Ah bah c'est gentil, ça.
Mmh. Bah écoutez. Quand on peut rigoler, c'est bien.
Vous lui livrez pas le courrier quand même à la femme de votre chérie ?
Non, c'est pas mon secteur.
Tant mieux.
Vous jouez avec qui, Béatrice ?
Avec Anne.
Liste 1 ou liste 2 ?
Liste 1.
D'accord.
Allez, bon courage.
Alors, ce sont des personnalités qui ont fêté leur anniversaire au mois de...
Ou qui vont le fêter.
Au mois de juin.
On va essayer.
D'accord. Alors, ouais. Top chrono. Elle chantait les brunes, non pas pour des prunes, l'abominable enfantine, banana. Lyon. Voilà.
Oui.
C'est une humoriste qui. C'est un ténor. Oh, ténor. Italien, d'origine italienne. Il a une
je
très belle voix.
Il
a fait un. Oui.
Je passe.
Non.
Ah, mais
il
non,
a fait un. Bon. Alors d'accord. C'est Lance, elle est avec je partage la vie de François Hollande, c'est une actrice. Mais oui, oh mais oui, on la voit en photo avec François Hollande.
Oui,
alors
bah oui,
bon, bah on est bien là. Alors c'est un activiste agricole. Ah oui, il présente Koh-Lanta. Ça c'est facile quand même.
Brogna.
Voilà. Ouais. C'est un navigateur chanteur.
Voilà.
C'est un petit record pour vous, bah là, oui, une bonne réponse.
Bah, ouais. Et puis vous l'avez pas trop engueulé par rapport à d'habitude.
Bravo.
Bon, Béatrice, je crois que c'est mal barré hein, pour partir.
Ouais.
Mais
bah,
on...
ouais.
Alors, bonjour Louis.
Bonjour Anne.
Bonjour Louis, vous avez 19 ans, vous êtes étudiant en droit en deuxième année, vous habitez à Talent près de Dijon en Côte d'Or, vous êtes célibataire depuis un an et vous avez joué en novembre avec moi et vous aviez perdu.
Ah ouais. C'est marrant, incroyable. C'est bizarre.
Quelle surprise. Vous allez à la fac à Paris ou à Bordeaux en septembre et vous écoutez régulièrement l'émission et vous participez même à des concours de plaidoirie.
Ouais, ça m'est arrivé, j'aime bien, ça me permet de, comme je suis plutôt bavard, comme ça au moins ça me permet de me canaliser un peu.
C'est les concours d'éloquence.
Il est arrivé quatrième au concours national de plaidoirie des doyens de France.
Bravo.
À 19 ans.
Les doyens à 19 ans, bravo.
Ah ouais.
Et puis vous êtes célibataire depuis un an, mais célibataire, célibataire ou...
Bah célibataire, faut profiter de la vie quand on est jeune quand même.
Ah ouais. Vous utilisez les applis, Louis?
Non, par contre, on a fait le procès fictif de Tinder, justement, en concours d'éloquence.
C'est quoi, Tinder?
T'es en page d'accueil, alors.
Ils t'en ont mis membre d'or, hein.
C'est clair.
Louis, vous jouez avec qui?
Je vais choisir Christine Mérou.
Oh là là,
oh là, là. D'accord.
Elle est prête.
Mais vous m'avez l'air intelligent, Louis. Donc
Christine va encore faire un cadeau à un auditeur.
Bah non, mais deux bonnes réponses, ouais. C'est facile à battre, oui, quand même.
Ça devrait le faire.
Allez, on y va. Attention. Donc des personnalités nées au mois de juin, top chrono.
C'est l'ex-femme de Brad Pitt, elle adore adopter des enfants.
Angelina Jolie.
Oui, elle chante ce matin, un lapin a tué un chasseur. Elle chantait pour les enfants.
Je sais pas, passe.
Ok, c'était le petit prince du rail, mais vous étiez pas encore né. Tellement je t'aime, je pense à toi. Non, ça vous dit rien?
Passe.
Ok, ancienne ministre de la culture, elle a été avec Montebourg, ils ont eu un enfant ensemble.
Philippe Etty.
Oui, jury de la Nouvelle Star, il parle un peu comme ça, il a des lunettes, toujours des lunettes noires. Non.
Passe.
Ok, c'est un imitateur, un jeune imitateur. Il aime bien reprendre les stars américaines, les grosses voix comme ça. Ok, c'est un chroniqueur. Il a été connu pour son surpoids et il a eu des problèmes de santé. Et là, il.
Ouais,
wow, sur le fil. Une petite frayeur, hein, Louis.
Ouais, ouais. Trois bonnes réponses et vous avez gagné, Louis.
Ouais, super, merci.
Voilà.
Grâce à Azur Eva, spécialisée séjour en village et résidence de vacances, vous avez gagné un séjour d'une semaine, 8 jours, 7 nuits pour 4 personnes. Au cœur des plus belles régions de France, venez découvrir nos sites labellisés famille, nature, gourmand, festif, sport ou bien-être. Il y aura toujours une activité faite pour vous. Et que vous soyez adepte des destinations mer, océan, montagne ou campagne, vous trouverez des formules adaptées à vos envies. Plus d'infos sur azureva-vacances.com. Vous allez partir avec qui, Louis?
Bah, du coup, j'ai le droit à 3 copines, là.
Ouais.
Donc
oui,
il faut
rien. Calme-toi.
Il est chaud là.
Ah bah oui.
Mais non, bah sinon je propose ça à mes parents. Voilà,
ah oui, c'est deux ambiances différentes.
Ouais, voilà, bon.
Béatrice.
Oui.
Je suis désolée hein.
Ouais, bah moi aussi. Oh.
Et vous savez quoi, Béatrice, comme vous êtes très sympathique, je vous envoie un livre, d'accord?
Ah ok, cool.
Ah bah voilà. Vous donnez votre adresse, hein?
Il n'y a pas de souci. Bah, et vous... puis je retenterai ma chance.
Ok, vous embrasse, on vous embrasse tous les deux. Au revoir Louis, au revoir Béatrice. Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros à la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Christine Mérou, Jean-Philippe Vizini, Léa Landau et Ben H qui nous expliquera pourquoi il est en deuil.
Ouais.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1 avec Ben H, Léa Landau, Christine Mérou, Jean-Philippe Vizini. Aujourd'hui a lieu la remise du prix Goncourt de la biographie. Est-ce que vous avez déjà rêvé d'écrire un livre? Et si oui, parlez de quoi, Jean-Philippe?
Ah ben, je suis en train d'écrire un livre en ce moment. Ça s'appelle « La patronne et le chroniqueur ». Alors, je vous le fais, c'est l'histoire d'un homme très beau, très intelligent et incroyablement charismatique.
Oh, c'est ma bio.
Qui serait embauché dans une émission radio animée par une femme très belle aussi. Et du coup, comme il lui dit qu'elle est belle, ni une ni deux, elle lui double son salaire.
Wow. Oh. C'est pas autobiographique, c'est ça qui est bien.
C'est de la science-fiction.
Vous seriez pas un peu faillot, Jean-Philippe Bézi?
Ça peut marcher.
Non.
Ça aurait pu marcher.
Moi, j'aimerais écrire un livre sur l'amour, mais mon éditeur n'est pas d'accord.
Pourquoi? C'est un thème trop répandu?
Non, c'est juste qu'il fait 2 pages. Je manque de vécu.
Ben H.
Moi aussi, j'aimerais écrire un livre sur mes histoires d'amour, mais là, pareil, mon éditeur a refusé. Il voulait pas d'un livre en 12 tomes. C'était trop mal espoir. Il y avait des trucs à raconter, quoi.
Ben H, qu'est-ce qui se passe là? Depuis le début de la semaine, je sens que vous n'êtes pas bien, vous êtes en deuil.
Mais oui, parfois la vie est cruelle. Hein, on est bien, dimanche chaud et ensoleillé de printemps, tu batifoles les pieds dans l'eau avec l'insouciance et la soif de vivre. La vie semble si belle et paisible et bim, vous savez ce que c'est, le téléphone qui sonne, le ciel qui s'obscurcit subitement, une notification apparaît, je la lis. Les Républicains, Laurent Wauquiez démissionne. Alors là, je peux vous dire que la fête était finie, remballe le parasol et les merguez, on ramasse le mode « Oeil, chérie, direction la télé, le 20h de TF1 pour voir les ultimes minutes du président des Républicains, le petit prince du bullshit, le roi de la fake news, apôtre du « c'est pas parce que c'est vrai que je le dis, c'est parce que je le dis que c'est sans doute un peu vrai hein ». Oui, Laurent Wauquiez part au plus mauvais des moments.
Vous voulez dire une semaine après la débâcle des Européennes?
Non, à 20 émissions de la fin de la saison surtout. Comment je vais écrire, moi, des blagues si Laurent Wauquiez n'est plus là pour dire des conneries hein? Si l'aspiration est une tempête, vous le savez, Laurent Wauquiez, moi, c'est mon phare. J'ai compté le nombre de chroniques que j'ai fait à son sujet. Sans le savoir, Wauquiez m'a payé 2 iPhones. Merci patron. Et j'ai bien vu depuis dimanche, hein, les réactions ont été très vives hein, après cette annonce, à l'image de celle de ma grand-mère qui s'était criée devant son poste de télévision. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Laurent Wauquiez a déclaré « Les victoires sont collectives et les échecs sont solitaires ». Et il a pas tort. Hein, bah si, par exemple, à la tête des Républicains, quand il a gagné... Bah non, ça ne marche pas. Bref, de toute façon, on se souviendra de cet homme politique hein, pour son œuvre et pour ses idées, comme celle sur non plus. Non, il n'y a pas d'idée non plus. Y a pas... Si, il a fait de grandes propositions pour le pays. Il y a eu par exemple celle... Décidément, rien. Bon, il a déclaré aussi « Sans doute, parfois je suis trop dur. Au fond de moi, ce n'est pas de la dureté, mais de la détermination. » Ce n'est pas de la dureté, mais de la détermination. C'est moi ou c'est la phrase d'un mec qui a eu une panne pendant l'amour? Oui, c'est pas de la dureté, ma chérie. Je t'assure, à l'intérieur, je suis déterminé. Bref, vous l'avez compris, ma chronique, c'était un ultime hommage à un homme politique comme on en fait beaucoup trop. Hein. C'est un en moins qui nous quitte cette semaine. Alors, en guise de dernier au revoir et en attendant son grand retour, comme tout homme politique assoiffé de pouvoir qui se respecte, j'aimerais vous proposer un petit medley de ses plus beaux discours comme président des Républicains. Voilà, tout ça, ça m'a affecté, ça m'a cassé mon beau week-end de soleil. Mais la vraie bonne nouvelle, c'est que je suis bien seul. Ciao l'artiste.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Juin, c'est la saison des mariages. Voici des phrases qu'il ne faut jamais dire à un mariage.
Dis donc, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Merci de m'avoir invité. Elle va bien, ta mère? Bah, en tout cas, je trouve qu'elle a pris un sacré coup de vieux.
C'est pas ma mère, c'est ma femme. Ah.
J'espère que la pièce montée est allégée, hein, parce qu'elle est bien boudinée dans sa robe, la mariée.
C'est pas la mariée, c'est la pièce montée.
Ah. Oh là là, le gars à côté de l'hôtel, c'est mon ex.
Quoi, t'es sortie avec le témoin?
Non, avec le prêtre.
Oh là là, j'ai peur du placement de table, là. J'aime pas qu'on me force à m'asseoir à côté de gens à qui j'ai rien à dire.
Mais t'as peur d'être assis à côté de qui?
À côté de ma femme.
Bah Christine, c'est quoi ce gros couteau? C'est pour couper le gâteau?
Non, c'est pour dissuader les autres filles d'attraper le bouquet de la mariée. Moi aussi, une fois, un homme m'a dit qu'il allait m'emmener vers l'hôtel et il a tenu parole.
Oh, il t'a épousé?
Non, il m'a emmené à l'hôtel Ibis.
Stop! Je m'oppose à cette union. Pourquoi? Oh, parce que j'ai vu ça dans plein de films, je trouvais ça cool de le faire.
Oh, comme c'est mignon, la mariée ouvre le bal avec son grand-père.
C'est pas son grand-père, c'est le marié.
Bah, et le monsieur qui porte le toast, alors?
Lui, c'est le notaire.
Ah. Ah bah, je peux vous dire qu'à son enterrement de vie de garçon, il s'est payé du bon temps, le marié. Hein. Ah, surtout avec la stripteaseuse. Oh là 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 là, quelle soirée on a passé. Je précise que je suis son témoin. Et vous?
Je suis la belle-mère.
Aïe.
Oui, merci, je voudrais porter un toast au magnifique marié et à sa superbe femme qui était juste plus rapide que moi pour le serrer. Allez, beaucoup de bonheur à vous, moi je vais me mettre la tête dans le seau à champagne.
Félicitations, mon pote. Alors, par contre, excuse-moi, je te laisse. J'ai une touche avec la nana là-bas qui est chaude comme la braise. Elle arrête pas de me dire des trucs cochons dans l'oreille.
Ouais, mais c'est ma mère.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Ben H, Lalando, Jean-Philippe Vizini, Christine Béroux et nos invités Antoinette Collin, directrice artistique du Point Virgule, et l'humoriste Tania Dutel pour la 12e émission du Point Virgule fait son Olympia, qui aura lieu le 20 juin prochain à Paris, à l'Olympia.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1 avec Jean-Philippe Vizini, Léando, Christine Mérou, Ben H et nos deux premières invitées qui viennent nous parler d'une grande soirée d'humour. Le Point Virgule fait son Olympia. L'une sera dans les coulisses un peu tendue forcément puisqu'elle est la directrice artistique du Point Virgule. L'autre sera sur scène un peu tendue forcément puisqu'elle est humoriste et qu'il s'agit de l'Olympia. Elle sera entourée de nombreux humoristes le 20 juin pour la 12e édition du Point Virgule fait son Olympia. Applaudissez Antoinette Collin et Tania Dutel.
Ouais.
Bonjour Antoinette Collin, alors vous êtes la directrice artistique du Point Virgule.
Bonjour, oui.
Et vous, Tania Dutel, l'humoriste dont on parle, en pleine explosion de carrière. C'est important pour vous de vous produire à l'Olympia, c'est la première fois ?
C'est la première fois que je vais faire l'Olympia, ouais.
Ouais, alors
je suis très contente et puis surtout de faire ça avec Antoinette que je connais depuis un moment, ça me fait très plaisir.
Combien de temps vous avez le droit ? Je veux dire, c'est combien chacun ?
Je sais pas Antoinette.
8 minutes.
8 minutes, ok.
C'est court, 8
Sachant
minutes.
Sachant que tout le monde dépasse, c'est un peu la tradition.
Ouais.
C'est une très mauvaise tradition.
Il y a combien? Parce que là, j'avais. On va donner la liste des humoristes qui seront là le 20 juin à l'Olympia. Donc il y a Marina Rollman, Boudère, Tony Saint-Laurent, Tania Dutel, Lola Dubini, Paul Taylor, Pierre Thévenoud, Frangeau, Paul Mirabel et les décaféinés.
Absolument.
Vous les avez choisis comment, Antoinette Collin, les humoristes?
La plupart du temps, ce sont des artistes qui ont déjà fait soit le Point Virgule, soit le Point Virgule en tournée. Enfin voilà, c'est des gens qu'on suit depuis 2-3 ans.
Mais je pense qu'il doit y avoir beaucoup de postulants, donc comment on fait son choix?
C'est surtout les thèmes, les rythmes de jeu, les univers. Enfin voilà, faut vraiment composer une soirée. L'idée, c'est de mettre tout le monde à l'honneur, donc de révéler fortement les singularités.
Donc c'est un spectacle qui dure 2 heures, j'imagine?
1h30.
1h30.
Si personne dépasse.
Ouais, 8 minutes fois 10 personnes, c'est
ça. Ça peut faire 1h40, c'est pas très grave, non?
C'est pas très grave, mais c'est bien de laisser le public sur sa faim.
Et alors voilà. Du coup, est-ce que par exemple quand les humoristes se produisent à cette soirée, ça déclenche des choses pour leur carrière?
C'est vrai qu'on a été un peu dépassé par l'événement. Et le baromètre, j'ai envie de dire, c'est le public. Au moment des saluts, il y a eu une année d'ailleurs où il y a
fallait
eu un avant
les
mettre après. Voilà, c'était ça. Non, on a eu l'année Gaspard Proust, je vais être très très honnête. Mmh. Et ce qui a été un peu terrible, parce que pour lui c'était super, il s'est passé plein de trucs, mais l'année suivante, tous les artistes se disaient qui va faire son Proust cette année. Mmh. Voilà, alors que voilà, je n'étais pas du tout dans cette.
Donc là, depuis 12 ans que ça existe, il y a eu Gaspard Proust, Farry, Alexus, Verino, Mathieu Madénian, Malik Bentala, Olivier de Benoît, Béranger. Riff, La Bajon, Nicole Ferroni, Pierre-Emmanuel Barré. Donc quand même.
Voilà.
Mais le Point Virgule, c'est un label qualité maintenant.
Tania Dutel, vous êtes fière d'être dans cette liste?
Ah bah oui, je suis très contente, ouais.
Ouais,
ouais, ouais.
Bah, surtout que pour Tania, comme elle intègre la programmation de la rentrée, c'est en plus...
Point Virgule, à la rentrée, à quelle heure vous serez?
Début de semaine à 21h15.
D'accord. Voilà. Alors Antoinette Collin, vous venez d'un milieu très modeste, je ne savais pas.
Parce que Vincent, ça
n'intéresse personne.
Mais non, votre père était plombier, votre mère femme de ménage.
Exactement.
Et à 18 ans, vous poussez la porte du Point Virgule et vous tombez sur la directrice, Marie-Caroline Burnat. Et vous dites, je cherche un petit boulot. Elle vous dit, il n'y a pas de petit boulot ici.
Donc, j'étais étudiante en théâtre et chant lyrique. Et donc, il fallait que je paye mes études.
Et vous étiez aussi hôtesse de bar dans les TGV.
J'ai fait plein de trucs, voilà. Ouais. Très, très modestement. Mais c'est vrai qu'il y a une période, j'avais trois jobs.
Et trois jobs, c'était quoi?
C'était les cours Florent, où j'étais vraiment à 9-10 heures par semaine. Des castings de chant, le Point Virgule et les TGV. Voilà.
Donc, et vous, la scène, du coup, à aucun moment dans votre vie, vous vouliez monter sur scène et
Je l'ai fait beaucoup. Je l'ai fait...
dans le TGV.
J'ai essayé de lancer les concerts en TGV, ça n'a pas pris.
Oui, en tant que chanteuse,
mais en
tant qu'humoriste.
C'est pas frustrant quand on veut devenir actrice, finalement. Là, vous passez votre temps depuis...
Initialement, je voulais faire du théâtre. Le one-man show, pour moi, ça a été une découverte en rencontrant le Point Virgule. Je sais pas, j'étais un peu piquée comme ça.
Mais qu'est-ce que ça fait d'avoir un rôle de puissance vis-à-vis des humoristes? Parce qu'il y en a plein qui rêvent de jouer au Point Virgule et c'est vous qui décidez si oui ou non vous les prenez.
Bah, j'ai pas.
Combien vous voulez en fait, c'est ça la question.
Non, véritablement, j'ai jamais eu cette impression de
pouvoir.
De pouvoir. Vous voyez, j'ai même du mal à le dire. Parce que comme j'ai commencé à la caisse du point virgule, j'ai vraiment placé le public, nettoyé les toilettes, répondu au téléphone. Mais j'ai pas de. Je suis très contente d'être là où je suis.
Et c'est quoi vos critères de sélection ?
Bah, les critères, c'est toujours l'idée de trouver quelqu'un qui ne ressemble à personne. Voilà, c'est
qui ressemble à rien.
Non, c'est pas surtout pareil. À lui-même.
C'est ça. Mais c'est vrai que Tania Dutel a installé un style qui n'existait pas avant, moi, je trouve. J'aime bien. Elle a pas de fil. Elle sort plein de trucs de droite, de gauche. Et moi, j'adore son style d'écriture. Et c'est vrai que j'avais jamais vu ça, moi.
Et
j'aime
le fait
beaucoup.
Que Netflix vous ait choisi pour représenter la France, quand même, votre spectacle est accessible sur cette plateforme. Ça vous a fait quoi? Vous êtes quand même dit, bah, je dois sortir du lot puisque je suis sur Netflix, non?
Attends, parce que déjà, j'ai un choc parce que tu me vois.
Certes. C'est la consigne parce que sinon je me fais engueuler.
Okay.
Oui, parce que okay. Tania est aussi la babysitteuse de ma fille. Ça, on le dit pas.
C'est vrai. Je l'ai gardé une fois.
Ouais. Elle est mignonne. Hein.
Elle est trop mignonne.
Vous avez compris pourquoi elle se plaint tout le temps?
Elle a pas du tout pleuré. Moi.
Mais nous non plus.
Ouais, mais elle, plus. En fait, c'est toi qui l'énerve.
Netflix.
Non, il faut expliquer ce qu'a fait Netflix. Ils ont sélectionné les artistes dans tous les pays du monde, les stand-upers, et vous avez été sélectionné pour la France.
C'est ça.
Quel honneur. Donc, ils ont filmé. Votre spectacle, comment ça s'est passé?
Non, on a tourné à Montréal, en fait. On devait faire 30 minutes de notre spectacle.
Et donc, c'est diffusé en ce moment sur Netflix?
C'est depuis le 1er janvier sur Netflix, ouais.
Et alors, avec les hommes, c'est facile ou pas, Tania Dutel?
Non, c'est pas facile
du tout. Racontez-moi.
C'est une catastrophe. Je reçois beaucoup de messages sur Instagram,
ouais.
Mais de but en blanc. Hein.
C'est-à-dire
un des derniers que j'ai reçus, c'est « Je te veux ».
Ouais.
Donc c'est de
je suis
but
désolé,
en blanc.
Je l'ai écrit un peu comme ça.
S'il n'y avait pas de X, c'était Jean-Philippe Vizini.
S'il y a des fautes d'orthographe, c'est moi.
J'ai pas d'explication. Il y en a qui disent que. Parce que la plupart de mes copines humoristes, à part Christine Bérou, on est quasiment toutes célibataires. Léa
vrai.
Aussi, tu vois.
Oh là, c'est un gros dossier, là.
ouais, mais en fait, je sais pas. Il y en a qui disent oui, mais les femmes qui sont drôles, ça fait peur aux hommes.
Ouais, c'est vrai.
Moi qui suis en couple, faut que je me pose des questions.
Ouais. En fait. Ce serait temps que sortir une bonne vanne, Christine. Hein.
Alors, vous dites, Antoinette Collin, je cherche pas des artistes, je cherche des spectacles. Chaque soir, on doit proposer 4 représentations avec des styles assez dissociés pour plaire à notre public. Où nous recevons les artistes sur scène pendant 10 minutes environ. C'est difficile, ça de...
Non, ce n'est pas difficile parce que ça se fait sur le temps. La plupart des spectacles que je prends en point-virgule, c'est des artistes que j'ai pu voir, je sais pas, 3 à 8 fois avant de décider de les prendre. Moi, j'ai besoin d'être fière de la programmation. J'ai besoin d'aller voir les artistes dans les loges et les regarder dans les yeux en disant ça, tout se passe bien pour toi, t'es content. Enfin voilà, j'ai besoin d'avoir
nous
ce contact-là.
Nous devons avoir vu tellement des artistes, vous avez tout vu.
Pas tout,
tout
non.
Non, heureusement, non, je protège.
Non, mais vous avez dû voir des gens égotiques, des gens égoïstes, des gens caractériels, des dépressifs, des...
Vous parlez de nous,
toujours
là
ou... dépressifs. C'est une qualité, hein. Le dépressif, chez
oui,
l'humoriste.
C'est vrai.
Ah oui, ils sont tous dépressifs, les humoristes.
Il y a un bon fond, quand même. Hein.
Ouais. Tania Dutel, vous n'êtes pas dépressive, vous?
Je vois pas de quoi vous parler.
Europe.
Pour la suite de cette émission avec Antoinette Collin, directrice du Point Virgule, et Tania Dutel, humoriste. Tania Dutel est actuellement sur la scène de la Nouvelle Scène à Paris et Antoinette Collin vient nous parler de la 12e édition du Point Virgule fait son Olympia le jeudi 20 juin 2019 avec Marina Rollman, Boudère, Tony Saint-Laurent, Tania Dutel, Lola Dubini, Paul Taylor, Pierre Thévenoud, Frangeau, Paul Mirabel et les Décaféinés. Ne bougez pas.
Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Jean-Philippe Vizini, Léa Landau, Christine Bérou, Ben H et nos deux invités, Antoinette Collin, directrice artistique du théâtre Le Point Virgule, et Tania Dutel, humoriste. J'allais dire, elles seront toutes les deux. Non, il y a Tania Dutel sera sur la scène de l'Olympia le 20 juin en compagnie d'une dizaine d'artistes dont Marina Rollman, Boudère, Tony Saint-Laurent, Lola Dubini, Paul Taylor, Pierre Thévenoud, Frangeau, Paul Mirabel et Décaféiné. Et puis la responsable de tout ça, c'est Antoinette Collin qui a choisi tous ces artistes.
Oui, j'ai une pression là.
Vous présentez pas du tout. Alors les gens se présentent
non.
Pas. Comment ça se passe alors
j'ai quand même un scoop parce que je me tâtais encore à le dire, mais j'ai eu enfin sa confirmation là ce week-end. Ce sera le MC de la soirée sera Arnaud de sa mère.
Arnaud de sa mère qui va présenter les humoristes.
Exactement.
Et c'est mieux quand même qu'il y ait un présentateur pour les humoristes que d'arriver comme ça les uns après les autres.
Bien sûr. Bah, surtout que l'idée d'avoir un MC, d'avoir un présentateur, c'est de casser et de lier. Voilà, de casser l'idée de faire un simple plateau.
Un plateau. Ouais.
Voilà. En amont, je menace les artistes pour avoir leur sketch, connaître bien les thèmes, connaître bien la
rythmique. Pour pas mettre deux artistes qui parlent la même chose à
voilà,
la suite.
Ce serait terrible. Voilà, donc on compose et puis on se voit avec Arnaud pour préparer tout ça en amont.
Et puis, le moment du verdict, c'est devant le public ?
C'est devant le public et c'est surtout souvent les artistes, malgré eux, perdent, j'allais dire. Alors certains perdent et d'autres se retrouvent complètement galvanisés. Ouais. Mais l'Olympia, voilà, c'est soit 30% de moins, soit 100% de plus.
Donc c'est l'occasion c'est en fait pour le public de découvrir des nouveaux humoristes qu'il ne connaît pas forcément.
Bien sûr, c'est ça et c'est aussi par exemple l'idée des gens qui ont vu Tony Saint-Laurent par exemple au Point Virgule vont aller à l'Olympia parce qu'eux-mêmes ont l'impression de vivre un instant unique. C'est comme un artiste qui démarre au Point Virgule. Je me souviens par exemple Florence Foresti qui a joué devant des petites salles parfois. Ben, je croise encore des gens, des habitués du Point Virgule qui disent j'y étais, on était 12 dans la salle et j'ai vu Florence, elle était que pour moi. Ce sentiment-là, c'est quelque chose qui est très intime. C'est
ouais, fort 12 dans la salle, c'est intime.
Ah oui, c'est intime. C'est certain.
Tania Nuttall, ça vous est déjà arrivé d'avoir des petites salles quand on démarre ?
Oh oui.
Oh oui, et alors,
oui, oui.
Et alors, on trouve où l'énergie et la ressource en soi ?
Ça m'était arrivé notamment pendant la campagne présidentielle, là, où je jouais les jeudis quand il y avait à chaque fois les débats. Donc, c'était galère. Et en fait, bah, les gens, je leur ai dit, bon, écoutez, on va pas se mentir. Apparemment, vous étiez pas au courant qu'il y avait un débat présidentiel, donc vous êtes venus. Donc, juste, s'il vous plaît, aidez-moi, soyez gentils avec moi, sinon ça va être vraiment dur et pas agréable pour nous. Et en fait, ça s'est très très bien passé.
Et en même temps, il faut du temps pour se former, Tania Dutel. On fait pas une humoriste en 15.
Il faut vraiment une maturité. C'est... Ouais. Puis moi, ce que j'admire dans la carrière de Tania, c'est, ça fait un moment qu'on se connaît, effectivement, mais elle est tellement entière sur scène.
Oui, je trouve aussi. Voilà.
Non, mais c'est vrai, c'est une telle connaissance de soi que de réussir à être aussi authentique sur scène, il faut du temps. C'est vraiment très, très fort. Quoi.
Je vous présente quelqu'un qui est très authentique, qui a une grande connaissance d'elle-même et de la nature humaine.
Il paraît.
Et Christine Béraud. Et du Point Virgule.
Alors oui, parce que je sais qu'on est en juin, mais je voudrais inaugurer une nouvelle rubrique dans cette émission. Les cours d'histoire de Christine. Vous êtes très intelligente. Et je voudrais vous raconter aujourd'hui l'histoire du Point Virgule. Tout commence au XIIe siècle, quand l'ordre des Templiers décide de s'installer dans le Marais, qui est alors un vrai marais. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de spectacle d'humour, sinon ça aurait donné ça. Bonsoir, damoiseaux et damoiselles. Alors moi, j'ai trop la pression parce que j'ai 14 ans et j'ai toujours pas d'enfant. Mais c'est pas grave, je peux être une femme libre, on n'est plus au Moyen-Âge. Ah si, bon, c'était Aliénor d'Aquitaine, c'est tout pour moi. Un siècle plus tard, Charles V décide d'agrandir Paris, de faire des travaux. C'est son obsession d'ailleurs depuis. Il s'est réincarné, il se fait appeler Anne Hidalgo. Et le quartier du Marais devient très beau et à la mode pour les aristocrates qui resteront là jusqu'en 1789. Les révolutionnaires les chassent. Les révolutionnaires, tout le monde voit ce que c'est ? C'est les gilets jaunes qui ont réussi. Le Marais se voit alors habité par les gens du peuple et les ouvriers. Le théâtre du Point Virgule était d'ailleurs avant une menuiserie qui a été démontée, comme beaucoup de comédiennes par la suite.
Sauf moi.
Alors, rien à voir. Antoinette, est-ce que c'est pour rendre hommage à la menuiserie que vous avez choisi Tania Dutel ? Parce qu'elle envoie du bois. Aujourd'hui, le Marais est un quartier magnifique et en sortant du Point Virgule après un bon spectacle, c'est si agréable de s'asseoir et de boire un café à 8,50 €. C'est un théâtre historique qui a vu débuter Jean-Marie Bigard, Pierre Palmade, Élie Kaku, Nicole Ferroni, Alexis, Florence Foresti, j'y ai joué aussi et... J'ai ce sentiment d'appartenance. L'autre jour, j'ai croisé Florence Foresti et je lui ai dit « N'as-tu pas l'impression que nous faisons partie de la même équipe ? Une équipe aux couleurs du rideau du Point Virgule ?» Et elle a eu une très jolie réponse, elle m'a dit « Vous êtes qui ?» En tout cas, le Point Virgule est un endroit mythique à qui le paysage humoristique doit beaucoup. Il faut le célébrer encore et encore. Sur scène, il se passe des choses magiques et en coulisses aussi, puisque c'est là que j'ai pécho, le père de ma fille. Et pour ça, merci.
Merci Antoinette Collin et Tania Dutel d'être passées nous voir. On rappelle cette soirée, la 12e édition du Point Virgule fait son Olympia, présentée par Arnaud de sa mère, le jeudi 20 juin 2019, avec Marina Rollman, Boudère, Tony Saint-Laurent, Tania Dutel, Lola Dubini, Paul Taylor, Pierre Thévenoux, Franjo, Paul Mirabel et les décaféinés. Merci à vous deux.
Merci beaucoup.
Et Tania Dutel, vous serez donc sur la scène du Point Virgule à partir de la rentrée et actuellement à la Nouvelle Scène à Paris. Merci.
Bravo.
Dans quelques instants, c'est le chroniqueur, éditorialiste et comédien Christophe Barbier qui sera notre invité.
Heures 12h30,
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1 avec Jean-Philippe Bizzini, Léa Landau, oui. Christine Béroux, Ben H oui. et notre invité ce matin qui est journaliste, éditorialiste, porteur d'écharpe rouge. Il a été directeur de la rédaction de l'Express pendant 10 ans. Il est maintenant sur BFM, l'homme de la situation quand il s'agit d'avoir un avis étayé, parfois même de faire le poirier. Derrière ses analyses politiques aiguisées se cache aussi un grand passionné de théâtre. La preuve, il vient nous parler de sa pièce « Moi, Sacha » sur la vie de Sacha Guitry, actuellement théâtre de poche à Paris. L'inclassable Christophe Barbier est avec nous ce matin sur Europe 1.
Bonjour. Bonjour à tous.
Bonjour. Bonjour Christophe Barbier, bienvenue sur Europe 1.
C'est un plaisir.
Dans votre pièce, tout commence quand Sacha Guitry se fait arrêter en peignoir. Il a d'autres points communs avec DSK.
Oui, il avait des points communs avec DSK et il aimait beaucoup les femmes, sauf que lui, il les épousait 5 fois quand même.
Ah oui, oui, mais il y en a eu d'autres qu'il n'a pas épousé.
Non, il y en a eu d'autres qu'il n'a pas épousé. Il avait un autre point commun, c'est qu'il a accumulé 92 millions de francs de l'époque de
fortune. Comment ça se fait ?
Le théâtre, ça rapporte.
À ce point-là ?
Ah oui, il a fait une fortune colossale qu'il a investie entièrement en tableaux. Il avait beaucoup de goût, donc son hôtel particulier était un musée vivant. Il l'avait d'ailleurs ouvert à la fin de sa vie.
C'était où Parisien. Son hôtel particulier ?
C'était avenue Élysée-Reclus, dans le 7e à Paris. Et quelques années après sa mort, il y a un promoteur qui a eu l'idée de raser tout ça et de mettre un immeuble à la place.
Oh là là, et quelle oui. tristesse.
Il a des héritiers, Sacha Guitry ?
Non, il n'avait pas d'enfants. Comme il disait, n'ayant pas
si,
eu d'enfants, je
si,
suis resté un fils. Mais il a donc légué à sa veuve, Lana Marconi, qui était sa dernière épouse. Et puis ensuite, c'est passé du côté de la famille de son comptable. Et maintenant, les ayants droit sont les héritiers de cette famille-là, donc des gens charmants, dont un entrepreneur qui avait une usine de textile dans les Pyrénées, qui se retrouvait à gérer les droits de Sacha Guitry, qui tomberont dans le domaine public en 2027, puisqu'il est mort en 57.
Comment on fait pour rentrer dans la vie d'un des plus grands auteurs du théâtre en 1h20 de spectacle, Christophe Barbier ?
D'abord, on lit tout, et puis on va picorer dans ses pièces de quoi raconter une histoire. Et il se trouve que, comme la plupart de ses pièces, c'est des histoires d'amour, et que les histoires d'amour, il y a généralement le début où on séduit, le milieu où c'est la passion, et puis la fin en plusieurs morceaux. Pas parce qu'on découpe l'épouse, mais parce que d'abord on se trompe, après on s'engueule, et puis on se quitte, et puis on se retrouve, et puis on se requitte, et puis on finit par mourir. Et avec tout ça, on fait une pièce. Voilà.
Et c'est vous qui jouez Sacha Guitry donc.
J'ai la chance de jouer Sacha Guitry, mais je suis perturbé par mes deux partenaires, Pierre Val et Chloé Lambert, qui ont décidé de casser mon spectacle et de me faire en permanence sortir de mon personnage.
Et vous gardez votre écharpe rouge sur scène ?
Ah non, non, le peignoir est rouge, mais l'écharpe, elle, est restée au vestiaire. Et pourtant, on fait ce que faisait Sacha Guitry, c'est-à-dire qu'on met nos propres vies sur scène. Il faisait même parfois construire des décors à l'identique de ses appartements, pour ne pas être perturbé. Ah ouais. Et il est arrivé plusieurs fois qu'il mette sur scène des tableaux de sa maison, parce qu'il trouvait que les tableaux peints par le décorateur, c'était des croûtes. Donc il apportait de vraies monnaies, de vrais sistelets,
de vrais Degas sur scène. Il a aimé beaucoup de comédiennes aussi.
Ah oui, oui, il a aimé beaucoup de comédiennes. Il a fait faire du théâtre aux femmes qu'il épousait, et il épousait les femmes avec qui il faisait du théâtre, donc ça l'occupait beaucoup.
Alors Christophe Barbier, il y a des légendes sur cette écharpe rouge. Vous dites que c'est Mitterrand qui vous l'a donnée, oui. Après vous dites...
Le moment est venu de dire la vérité.
Oui. Ah.
C'est un morceau que j'ai un soir arraché à la robe d'Anne Roumanoff, qui elle-même aimait beaucoup le rouge.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Christophe Barbier, venu nous parler de la pièce « Moi, Sacha ». D'après l'œuvre de Sacha Guitry, avec Chloé Lambert, Christophe Barbier, Pierre Val, un spectacle au théâtre de Poche-Montparnasse, les mardis et mercredis à 21h, spectacle hommage à Sacha Guitry. Ne bougez pas.
Oui. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Jean-Philippe Bizzini, Léa Landau, Christine Béroux, Ben H. Et notre invité Christophe Barbier veut nous parler du spectacle Moi Sacha. D'après l'œuvre de Sacha Guitry, un spectacle au théâtre de Poche-Montparnasse. Vous êtes entouré de Chloé Lambert et Pierre Val, Christophe Barbier. Alors, vous avez toujours eu cette passion du théâtre. Les gens ne le savent pas, ils vous connaissent surtout comme éditorialiste politique. C'est une frustration, ça, que les gens vous voient comme un journaliste et pas comme un comédien ?
Non, pas du tout. J'ai été très heureux d'être journaliste, je l'être encore, de passer de l'écrit à l'écran.
C'est quand même ça qui vous rapporte le plus d'argent d'être journaliste.
Ah oui, oui. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que quand j'ai eu 17 ans, instinctivement, je me suis dit vaut mieux aller vers le journalisme que d'aller vers le théâtre. Je me disais qu'on pouvait tout à fait être comédien amateur et journaliste professionnel. Mais comédien professionnel et journaliste amateur, c'était beaucoup plus difficile. Et donc j'ai choisi de faire de mon métier du journalisme, mais de faire du théâtre, qui est ma passion. Quand même.
Et c'est dans quel domaine que vous voyez les meilleurs comédiens ?
Les comédiens de la politique, et même les tragédiens de la politique, voilà. Sont souvent très forts dans l'interprétation. En revanche, pour le texte, ils sont assez mauvais.
Mais surtout, ils jouent toujours le même rôle, souvent, non?
Oui, même si l'actualité les amène à jouer parfois des rôles impromptus.
Et vous-même, vous jouez un rôle quand vous êtes éditorialiste?
Non.
Cet éditorialiste sautillant, ce zébulon, toujours excité?
Ah non, quand on est éditorialiste, on a le privilège d'être soi-même. C'est-à-dire d'être soi-même.
Vous êtes vraiment excité comme ça?
Ah bah, bien sûr, oui, c'est de la passion, c'est de l'enthousiasme. Il faut être piquant,
dès
il faut être vif.
Dès le matin, vous êtes comme ça?
Mais dès le matin, j'ai comme ça. Mais vous m'avez pas assez essayé au petit matin.
Mais ça doit être fatigant pour votre entourage, là, si vous êtes toujours...
Eh bien, il n'y a plus d'entourage, alors voilà, c'est tout s'expliquer.
Alors, Christophe Barbier, Sacha Guitry a été arrêté par la police à cause de ses mœurs. S'il avait vécu aujourd'hui, aurait-il été arrêté pour cela également ou au contraire, son mode de vie serait passé totalement inaperçu?
Non, son mode de vie serait passé bien plus inaperçu. Il a été arrêté pour ses idées politiques, pour son comportement mondain pendant la guerre. Il considérait que être patriote, c'était pas forcément résister et prendre le maquis. On pouvait être patriote, pensait-il, en trinquant avec du champagne avec les Allemands, parce qu'en étant ami avec les Allemands, on pouvait obtenir d'eux beaucoup de choses. Et il a obtenu d'eux beaucoup de choses. Il a obtenu la libération de Tristan Bernard qui allait partir de Drancy vers les camps. Il a obtenu du ravitaillement pour telle ou telle célébrité qui était en panne d'alimentation. Il a obtenu qu'on rende à certains dont les villas avaient été confisquées par les Allemands leur maison. Donc il a rendu beaucoup de services à des tas de gens qui ne sont pas vraiment souvenus quand il a été arrêté. Mais il avait oublié que ça suffisait pas et qu'il fallait en plus passer du côté de la résistance. Mais c'est surtout une question d'habileté, hein, parce que vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, Jean-Paul Sartre a créé des pièces de théâtre, notamment Huis clos. Il y a eu une première avec des officiers allemands, il a trinqué avec les officiers allemands, mais en 1944, il a eu l'habileté de passer à la résistance et de se dire communiste. Tandis que Guitry, lui, il a sorti un livre sur Maréchal Pétain, alors évidemment, en 1944, c'était un petit peu moins lucide.
Moins visionnaire.
Mais après, il a eu la Légion d'honneur, Sacha Guitry, donc ça a été oublié.
Il l'a eu avant et puis il a eu des soucis après. Vous savez, pendant la période d'enquête pour l'indignité nationale, 44-47, pendant 3 ans, il n'a pas le droit de publier, il n'a pas le droit de jouer, il n'a pas le droit de tourner des films. Il vend ses tableaux pour essayer de vivre, il est vraiment reclus. Et ensuite, on le réautorise à travailler, mais évidemment, toute la presse étant aux mains des anciens résistants, il se fait assassiner par la critique. C'est le cinéma, finalement, qui va le réconcilier avec le public, parce qu'il sort ses grands films, si Versailles m'était compté, La Poison, et à ce moment-là, il retrouve une ferveur populaire et à faveur du public. Mais ça a été très, très difficile.
Et pendant ces années, sa femme l'a soutenu, ces années difficiles.
Alors non, c'était des années très difficiles où il était aussi en pleine solitude. Il était séparé de Geneviève de Séréville. Il a épousé qu'après la guerre Lana Marconi, qui vivait avec lui, mais tout en vivant avec une femme. Et c'est une sorte de couple à trois, mais lui-même, à ce moment-là, était un vieil homme malade et qui était beaucoup dans l'amertume. Mais il y en a une qui a été fidèle, mais tout au long de sa vie, c'est Pauline Carton. Pauline Carton, quand Guitry est en prison en 1944, elle lui envoie un petit mot qu'elle fait passer par son avocat. Elle lui dit « Patron, je ne sais pas où vous êtes, mais j'aimerais y être avec vous. »
Oh, c'est mignon. Mais parce qu'elle ne savait pas où il était, justement.
Non, elle ne savait pas si c'était à Drancy, à Fresnes. Voilà.
Alors, dans la pièce, votre partenaire, Chloé Lambert, Christophe Barbier, joue les 5 femmes de Sacha Guitry. Une femme peut incarner 5 personnalités différentes. Ça vous a pas fait peur?
Non.
C'est l'angoisse pour un homme, 5 façons différentes de faire la gueule. Et des 5 femmes de Sacha Guitry, Christophe Barbier, quelle est votre préférée à vous?
Jacqueline de Lubac. C'est la brune parfaite, des yeux bleu marine, un petit nez fripon. C'est la femme idéale, ces beautés des années 20-30 qui, encore aujourd'hui, si elle surgissait, à mon avis, raflerait la mise. Et puis c'est celle qui a, je trouve, eu le plus de bonne influence sur Sacha Guitry. C'est elle qu'on voit dans, par exemple, Faisons un rêve, la version cinéma, et elle a magnifié le génie de Sacha Guitry. Alors que quand il était avec Yvonne Printemps, qui était une immense artiste, il était, je pense, plus en rivalité avec elle. Et d'ailleurs, elle l'a quitté pour Pierre Fresnay. Ça a été un des grands adultères et une des grandes histoires de l'entre-deux-guerres. D'ailleurs, tout Paris appelait Guitry le cocu effréné. Pour faire un jeu de mots, il en a beaucoup souffert. Charlotte Lizès, sa première épouse, qui était plus âgée que lui, était la maîtresse de son père. Il l'a piquée à son père. Donc elle a été plutôt sa deuxième mère. Elle a fait de lui l'auteur qu'il était. Jacqueline de Lubac, c'est l'histoire d'amour la plus équilibrée. C'est à elle qu'il a dit « J'ai le double de votre âge, il est donc normal que vous soyez ma moitié ».
Oh, il était fort.
Christophe Barbier, sur scène, vous incarnez Sacha Guitry. Quels sont les points communs que vous avez avec lui aussi? Vous avez 5 femmes dans votre vie. Vous êtes l'homme d'une seule femme ou d'une seule femme à la fois?
Alors, j'en ai épousé que 2. Je vais m'arrêter là. Non, je pense que les points communs que j'ai avec Sacha Guitry, c'est une passion pour l'histoire. Sauf que lui n'avait qu'un art de l'admiration. Tout ce qui était dans l'histoire, c'était forcément des grands hommes qui avaient fait de grandes belles choses.
Vous avez un regard critique, Christophe Barbier.
Oui, nous, on a un regard plus critique sur ceux qui nous ont précédés. On ne prend pas forcément les grands hommes pour des bienfaiteurs. Ensuite, j'adore les mots d'esprit, mais là, je ne peux pas égaler Guitry. Je ne peux pas rivaliser avec Guitry. Mais
très misogyne, quand même, Guitry.
Non, il n'était pas misogyne. Il était phallocrate et c'est différent. C'est quoi le phallocrate? C'est celui qui veut le pouvoir pour les hommes. C'est c'est pas bien et c'est totalement archaïque. Mais c'est pas être misogyne. Misogyne, c'est ne pas aimer les femmes. Guitry aimait les femmes. Il les adorait. Il ne voulait pas que les femmes tombent dans la salissure de la politique, de l'argent, des affaires. Il les trouvait comme des déesses. Il fallait qu'elles soient au-dessus de tout ça. Donc une femme, c'était fait, et c'est totalement archaïque, une femme était faite pour être adorée, couverte de cadeaux, mise sur un piédestal, et voilà. Et alors, on peut lui en vouloir, mais il faut comprendre aussi ce que ça donnait de dévotion. C'est lui qui disait aussi « je suis contre les femmes, tout contre ». Elle est partie, enfin seule, je vais enfin pouvoir vivre seule. Et déjà, je me demande avec qui. Voilà. Il ne pouvait pas se passer de femme plus de 2 heures par jour.
Europe 1.
Un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Christophe Barbier, venu nous parler de la pièce Moi Sacha, actuellement au théâtre de Poche Montparnasse, mardi et mercredi à 21h, un spectacle avec Chloé Lambert et Pierre Val. Ne bougez pas.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Jean-Philippe Bizzini, Léa Lando, Christine Leroux, Ben H. Et notre invité Christophe Barbier pour la pièce Moi Sacha, actuellement au théâtre du Poche Montparnasse à Paris. Christophe Barbier, votre père était secrétaire général de la mairie de Sallanches en Haute-Savoie. Il est le premier homme politique que vous ayez rencontré. Qu'est-ce qu'il vous a enseigné? Qu'une bonne raclette pendant un conseil municipal, ça met tout le monde d'accord?
Alors là,
qu'il ne faut pas hésiter à glisser quelques mallettes de reblochons aux administrés pour qu'ils votent pour vous?
La bonne raclette, c'est idéal. Alors lui était secrétaire général, donc justement, il était du côté des fonctionnaires. Et donc, les maires passaient, les fonctionnaires restaient. C'était la continuité de l'État, en tout cas la continuité de la République. Ce qui m'a enseigné, c'est le civisme. Et quand j'ai assisté très jeune au dépouillement des élections, c'était un rite, c'était sacré. Voir toute la journée défiler les gros, les maigres, les riches, les pauvres, les jeunes, les vieux, à égalité dans l'isoloir. Et le soir, chaque enveloppe avait le même poids que l'enveloppe voisine. Je me suis dit que c'était formidable de vivre dans un pays où on avait la chance de voter, de désigner nos responsables. C'est pour ça que les progrès de l'abstention sont quand même assez funestes.
Christophe Barbier, vous avez passé votre enfance en Haute-Savoie. Qu'est-ce qui fait que vous soyez devenu un journaliste et un homme de théâtre plutôt qu'un guide de montagne? Ça ne vous intéressait pas de premier cordée? C'est dans la montagne que vous avez appris à remonter la pente?
Alors, il y a beaucoup de leçons à prendre en montagne pour les hommes politiques, notamment la leçon de l'humilité. La différence entre la politique et la montagne, c'est quand on tombe en politique, on peut remonter en montagne, et là, ça arrive rarement. Non, ce que ça m'a appris aussi, c'est l'endurance. Et là, les gens qui vivent en montagne sont quand même extrêmement endurants. Mais j'ai été happé par la politique, par quelqu'un qui s'appelait François Mitterrand. Quand il a été élu en mai 81, je me suis rendu compte que mon pays était capable de se déchirer entre ceux qui croyaient que les chars russes allaient arriver à Paris dans les 48 heures et ceux qui pensaient qu'on passait de la nuit à la lumière, comme disait Jack Lang. Je me suis dit, mais c'est formidable. Des Français qui sont restés capables comme ça de se foutre sur la figure pour juste une élection.
Alors c'est justement, vous avez vu passer 6 présidents, de Mitterrand à Macron. Vous avez un préféré, Christophe Barbier?
Ah ben, il est incontestable que les idées pour lesquelles je me suis battu pendant 30 ans sont assez bien, pas toutes, représentées par Emmanuel Macron. Alors on me dit toujours, Barbier, vous êtes macroniste. Mais c'est faux! C'est Macron qui est barbieriste! J'étais là avant lui! Je dis tout ça depuis 20 ans, le type, il arrive, il le fait. C'est quand même un peu facile, quoi.
Vous trouvez qu'il réussit pour l'instant?
Non, il réussit pas. Mais attendez, on ne peut pas tout demander aux hommes, surtout pas de réussir. Voilà, ils promettent, c'est déjà beaucoup les hommes politiques.
Vous dites qu'il a fait du théâtre, Emmanuel Macron, et que ça se voit?
Ça se voit dans la manière qu'il a parfois de jouer un personnage. Il a joué le jeune Angelot pendant la campagne présidentielle, il a joué à Jupiter ensuite pendant la première année à l'Élysée, après il a joué à celui qui fuyait devant les Gilets jaunes, et puis finalement il s'en est pas mal tiré, hein. Il a réussi avec le grand débat à noyer tout cela.
Alors vous avez fait un rap sur Emmanuel Macron? Et oui. Puis vous avez fait le poirier sur BFM TV. Et ça se passe bien, votre préparation à la France, un incroyable talent? comment vous êtes?
Je suis président, je suis Jupiter, je suis vraiment un mec super. J'ai augmenté la CSG, je préfère l'OM au PSG.
Ouais. Non mais, comment vous est venue l'idée de faire ça, Christophe Barbier? C'est envie de casser les codes? C'est juste la crise de la cinquantaine? Ou définitivement, il faut que vous arrêtiez l'alcool au petit-déj?
Non, l'alcool, c'est pour aller avec la raclette que vous évoquiez tout à l'heure. C'est inséparable. Non, mais j'ai eu la chance, après les éditos très sérieux de la première page de l'Express, qu'on me demande de faire le roman du président, c'est-à-dire d'inventer les délires de Macron quand il est à l'Élysée. Donc pendant 102 épisodes et 600 000 signes, je me suis amusé à faire ça. Donc il faisait un peu tout et n'importe quoi, notamment du rap. Mais je le chante quand je vais en province avec mon complice Marc Jolivet jouer. Mais ça marche bien. Je pense que Emmanuel Macron, pour toucher les jeunes, il a manqué de jeunes aux élections européennes dans les urnes. Il devrait se mettre au rap. Vous imaginez une battle Booba, Caris, Macron.
Au milieu, ouais.
Christophe Barbier, Jean-Philippe Bizigny a quelque chose à vous demander.
Oui, bonjour Christophe Barbier. Aujourd'hui, voilà, je me présente, je suis chroniqueur ici à Europe 1, mais j'ai des grands projets pour mon pays. Et c'est pour ça que je vous annonce que je souhaite me présenter aux élections présidentielles de 2022. J'arrive. Alors, évidemment, comme je débute en politique, je suis un peu, voilà, j'aimerais profiter de votre présence pour m'exercer à l'exercice de l'interview politique.
Alors déjà, on dit l'élection présidentielle parce qu'il n'y en a qu'une. C'est pas les élections présidentielles. C'est les municipales. Que, voilà,
mais c'est mon premier jour. Ah, non,
c'est un métier, il faut apprendre.
C'est
bon
pour
courage.
Ça que j'ai confiance en vous. Vous
bon, déjà, il a un physique. Il a un physique de président.
Je sais pas si c'est un compliment, ça.
Ah, si.
C'est quand on voit les précédents.
Non, mais la barbe de 3 jours, la peau bronzée, c'est très bien.
Ah, ouais.
C'est un mélange entre le Sarkozy de 2007 et le Macron de 2017. C'est bon.
Et on le voit pas comme ça, mais il a le ventre de Hollande 2012 aussi.
Merci, Benach. Donc, pour faire simple, voilà, je vous ai préparé quelques petites questions. Si vous voulez bien jouer le jeu, voilà, on imagine, on est en 2022, je suis candidat et vous êtes le journaliste. Allez-y, posez votre question.
J'ai la chance aujourd'hui de recevoir le candidat à la présidentielle, Jean-Philippe Vizigny. Bonjour.
Bonjour.
On vous connaît bien.
La Miss France.
On vous connaît bien, monsieur Vizigny, mais pas comme politique. On vous a découvert à l'époque, c'était il y a un certain temps, chez Anne Roumanoff, qu'on salue. Elle est en tournée en Ukraine en ce moment. Vous étiez à l'époque, les sondages le disaient, le chroniqueur le plus drôle de France et toutes les femmes étaient à vos pieds. Mais pourquoi avoir quitté cette vie de rêve pour entrer en politique ?
Ah là 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 là, la radio, quelle époque ! Je me souviens encore à cette époque. Je me souviens de cette fois où Christine Bérou, Léa Landau, Anne Roumanoff avaient essayé de me coincer dans la loge. Mais bon, c'est du passé aujourd'hui, voyez-vous, Christophe Barbier. J'ai envie de mettre cette notoriété au service des Français. Parce que les Français souffrent. Et moi, j'entends les Français. Ouais. Et je veux leur dire que moi aussi, j'ai souffert. Et que s'ils votent pour moi, je ne souffrirai plus.
Mais vous voulez dire que si vous êtes élu, eux ne souffriront plus?
Non, non, non. Non, non, je ne veux pas leur promettre des choses que je ne pourrais pas tenir. Vous savez, Christophe Barbier, j'entends les Français, moi. Et vous savez de quoi ils en ont marre? Ils en ont marre d'être déçus. Ouais! C'est pour ça que je dirai aux Français avant même d'être élu, j'y connais rien, j'y comprends rien, je ferai rien, mais avec moi vous serez jamais déçus! Voilà!
Alors le dernier sondage est tombé, vous êtes pour l'instant crédité de 0,01% d'intention de vote, et encore il y a une marge d'erreur, vous n'avez toujours pas d'équipe de campagne, est-ce que vous pensez que vous avez encore votre chance? C'est jouable?
Vous savez, Christophe Barbier. L'important, ce sont pas les sondages. L'important, ce sont les Français. Et moi, j'entends les Français. J'entends les Français, mais pas seulement. J'entends aussi le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Qu'est-ce que c'est que ce texte? Oh là là. Ah, je sais, parce que je vous explique, j'ai embauché mes enfants comme assistants parlementaires. Et c'est eux qui écrivent mes discours. Mais bon, ils ont à peine 10 ans, voilà. En tout cas, avec moi, ça va changer. Vive la République, vive la France, allez les Bleus, voilà.
Vizigny, président.
Europe 1. On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Christophe Barbier, venu nous parler de son spectacle. Moi, Sacha, d'après l'œuvre de Sacha Guitry, un spectacle actuellement au théâtre du Poche Montparnasse les mardis et mercredis à 21h.
Anne Roumanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Jean-Philippe Vizigny, Léa Landau, Christine Bérou. Ben H.
Enchanté.
Et notre invité, je ne savais plus son nom. Et notre invité, Christophe Barbier, va nous parler de la pièce Moi, Sacha, d'après l'œuvre de Sacha Guitry. Alors, les mardis et mercredis à 21h, au théâtre du Poche Montparnasse. Les gens qui viennent vous voir, Christophe Barbier, c'est parce qu'ils vous ont connu comme éditorialiste politique? Comment ça se passe? Est-ce
oui,
que par curiosité?
Oui, il y a une partie du public qui vient parce qu'il veut voir si l'éditorialiste de la télé ne va pas se planter complètement sur scène et avoir des trous de mémoire. Il y a ceux qui viennent pour Sacha Guitry. Il a quand même une vraie clientèle fidèle, des gens. Ouais. qui voient tout ce qui passe quand ils voient du Sacha Guitry, ils ont cette nostalgie. Et puis il y a les habitués du poche, parce que Philippe Tesson a créé une espèce de famille dans ce petit théâtre, et les gens viennent, ils reviennent, ils passent, ils restent, donc c'est très sympathique.
Vous n'avez jamais écrit de pièce de théâtre vous-même, Christophe Barbier?
Ah bah celle-là, j'ai écrit tout ce qui n'est pas
oui,
de Guitry.
Oui, mais enfin, c'est pas
entre
de vous.
Deux, j'ai écrit une histoire de la Comédie Française, j'ai écrit mon tour du théâtre en 80 minutes que je joue encore au poche le lundi soir, j'ai écrit 4-5 pièces comme ça.
Et là,
oui,
vous n'avez pas envie d'écrire une vraie pièce?
Il y a de la matière en politique pour écrire de vraies pièces de théâtre.
Moi, non, mais même une pièce en dehors de la politique, vous n'avez pas de...
Ouais,
mais
ai-je des compétences en dehors de la politique? Puis tout est fade en dehors de la politique.
Bah moi, l'été dernier, je vous avais vu parler d'Olivier Giroud. C'est pas très politique.
Ah ouais, dans le... Dans
vous avez même un avis sur Olivier Giroud.
Ah oui, sur la Coupe du Monde. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Olivier Giroud. Mais il pourrait faire de la politique puisqu'il est tout le temps devant, il marque jamais.
Si, récemment,
c'est
il a marqué.
Vrai, il a marqué en
fait. Oui, il a marqué.
Oh, oui, il a marqué un but.
Mais avec l'équipe de France en Coupe du Monde, il a eu un peu plus de mal.
C'est vrai que quand il marque, du coup, on s'en souvient.
Ouais, mais j'aime beaucoup ce joueur parce qu'il fait le sale boulot pendant que les petits jeunes peuvent briller. C'est bien,
c'est
quoi.
Vrai,
j'aime plein
d'abnégations.
C'est un grand costaud, donc il y a trois défenseurs dessus. Et comme ça, Mbappé, qui est tout maigrelet, que personne ne voit, il passe. Voilà.
Je vous présente quelqu'un qui aimerait bien avoir trois défenseurs dessus. C'est Léa
Landau. C'est vrai, ça.
Même un maigrelet, ça lui irait bien.
Eh bien, Christophe Barbier, pour faire une pièce, moi, Sacha, je me suis dit qu'il fallait vraiment aimer Sacha Guitry. Je vous ai donc préparé une interview. C'est Guitry qui l'a dit. Je vous donne des citations de lui et vous me dites si elles vous correspondent, Christophe Barbier. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Vous pensez plaire à tout le monde, vous?
Alors, si vous regardez Twitter, comme je me fais incendier par les mélanchonistes et le pénisme, je suis loin de plaire à tout le monde. Hein. Les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils m'ont mis, hein.
Vous regardez ce que les gens disent de vous, Christophe?
Ah oui, sur Twitter, toujours. Parce que c'est un bon thermomètre du sentiment ou du ressentiment national. Qui fait partie des humeurs du peuple. Il y a des moments où le peuple, il est heureux, positif, conquérant. Puis il y a des moments où le peuple, il est malheureux, il fait de la bile, il a du fiel. Ben voilà, et notre histoire est truffée de cela. Honnêtement, en 2019, ça va mieux qu'en 1940, de ce côté-là, pour l'humeur du peuple.
Mm-hmm. Et j'ai une anecdote, je viens de m'en rappeler.
En 1940
ans... Non, il y a deux ans, j'étais en train d'attacher mon vélo derrière les arènes de vitesse. Et vous passez, et il y a un gars qui vous a arrêté pour vous dire qu'il n'était pas d'accord avec vous. Et vous avez discuté, et j'ai fait semblant de rester à attacher mon vélo pour entendre. Et en fait,
son vélo, elle essayait surtout de le voler, ça lui laissait du temps.
Parce que vous avez eu un débat très intelligent.
Très intéressant. Le débat, je m'en souviens très bien, c'était, dis donc, la super fille qui attache son vélo. Si on s'y met à deux dans les arènes de l'hôtel, je me souviens très très bien.
Alors, Sacha Guitry a dit aussi, le mariage, c'est résoudre à deux des problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul.
Exactement. Il ne faut épouser que de très jolies femmes si vous voulez qu'un jour on vous en débarrasse. Très jolie, avec un très mauvais caractère, comme ça il n'est de pire vengeance à l'égard de celui qui vous la prend que de la lui laisser.
C'est ça. Alors Sacha Guitry disait aussi, article 1, le tabac est un poison, article 2, tant pis. Vous avez des vices, vous, Christophe Barbier?
Si vous voulez, ce soir, Léa, on se voit. Pour prolonger cette conversation.
D'accord.
Ça y est, je vais me marier une troisième fois.
Vous voyez qu'il ne faut jamais dire jamais.
Là, je vous souhaite bien du courage.
Alors, il disait, il ne faut jamais regarder quelqu'un qui dort. C'est comme si on ouvrait une lettre qui ne vous est pas destinée.
C'est très beau, ça.
C'est trop beau.
C'est très, très beau.
Surtout quand les femmes ronflent.
Ouais.
Mais rien n'est plus proche et plus éloigné à la fois que deux amants endormis côte à côte.
Ouais, mais là, il n'y a personne pour les regarder.
Et mais dans leurs rêves. Ils sont ils.
Et enfin, il disait, si ceux qui disent du mal de moi savaient exactement ce que je pense d'eux, ils en diraient bien davantage.
Oui.
Alors, vous pensez quoi d'Anne Romanoff, vous, Christophe Barbier?
Je ne pense que du bien d'Anne Romanoff. Mais comme on va se voir ce soir, je pourrais vous en parler aussi. Après.
Europe 1, Anne Romanoff. L'histoire de la semaine.
Christophe Barbier, nous avons une tradition dans cette émission, l'histoire de la semaine. Le principe, le lundi, on commence une histoire. Nos invités de la semaine la complètent les uns après les autres jusqu'au vendredi, avec à chaque fois un mot obligatoire à tirer au sort dans ce chapeau.
Édito.
Édito. Hier, Jean-Marie Rouard a commencé l'histoire. On écoute, à vous de la poursuivre en une ou deux phrases maximum avec le mot édito.
J'étais amoureux. Ce n'était pas la première fois, ni la dernière, j'espère.
Alors, j'ai rencontré Edith, c'était à l'aube, j'ai vu Edith tôt.
Merci Christophe Barbier d'être passé nous voir. On rappelle votre pièce « Moi Sacha » d'après l'œuvre de Sacha Guitry. Une pièce avec Chloé Lambert et Pierre Valle, actuellement au théâtre du Poche Montparnasse, les mardis et mercredis à 21h. On vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin. On sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1.